Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, l'émission qui décrypte avec vous toute l'actualité du comics et tout ce qui le touche de près ou de loin. Cette semaine, on vous décrypte, enfin, on vous parle de l'actualité des comics du 5 mars 2024. Et pour faire ça, je suis avec mon équipe de décrypteurs et de décrypteuses, à commencer par Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie?
Oui, ça va. J'avais coupé le micro.
Oui, j'ai vu ça. Nous sommes aussi avec Titou Peinture, le retour de Titou Peinture. Comment va Mudaison? Est-ce que tu as une Mudaison News à partager? Elle a été demandée par certaines, par une personne en vrai. Et une seule personne qui se reconnaîtra dans les, commentaires.
Eh bien, écoutez, ma Mudaison News, c'est que vous voyez mon affiche de campagne politique, et eh ben finalement j'ai abdiqué au profit de ma fille puisqu'elle a été élue au conseil municipal des jeunes de Mudaison.
Oh, trop bien, on espère.
Ça, c'est une vraie Mudaison News.
J'espère qu'il y aura plein de news par rapport aux comics et par rapport à la future comics Mudécon, qui sera la plus grande convention de comics de Mudaison.
Alors. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, son programme est plutôt d'établir un régime totalitaire complètement fermé du reste du pays à Mudaison.
C'est d'accord. Le The Maker de Mudaison, ta fille. Quoi.
C'est ça, c'est The Mudaison Makers.
D'ailleurs,
de Mudaison.
On en a pas parlé, je sais pas si tu as eu le temps d'aller faire un tour, mais il y a une librairie PD qui a ouvert pas très loin de Mudaison, à Lunel, si je dis pas de bêtises.
Alors oui, j'ai voulu même y aller, figure-toi, mais c'est très très compliqué, ne serait-ce que de s'y garer.
D'accord. Eh ben, j'espère qu'il sera très content d'apprendre ce genre de choses et ils nous donneront pas le nom parce qu'on n'y est pas allé, donc on ne sait pas à quoi ça. Et ces réseaux sociaux sont sympathiques, voilà.
Et nous sommes. Cette nouvelle librairie est une bonne nouvelle de toute façon.
Oui, oui, surtout dans un petit lieu, parce que Lunel c'est pas très grand.
C'est une petite ville, Lunel. Bon, enfin bref, c'est pas ça qui va passionner nos lecteurs.
Peut-être, on ne sait pas. Ça fait partie des news. Bon, allez, c'est pas grave. Spades, comment ça va, Spades? Tu as coupé ton micro, Spades.
Si je remets pas le micro, ça va pas du tout. Bah, ça va très bien.
Eh bien, ça nous fait plaisir. Que ça aille bien, on va passer aux petites news de la semaine. Je l'avais rappelé, ça fait 15 fois que je le répète, mais je m'en fous, je vais continuer à le répéter. Allez écouter le podcast avant d'aller dormir, c'est bien ça, hein, l'épisode 48, si je dis pas de bêtises, s'appelle La Chasse, où vous pourrez retrouver la nouvelle de Sophie. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Super nouvelle autour de la chasse de vampires. Si vous aimez la chasse, si vous aimez les vampires, allez-y. Dans les autres choses que j'avais à vous annoncer, on a sorti un épisode de We Have to Go Back sur l'épisode 6 de la saison 1. Effectivement, nous ne sommes qu'à la saison 1. Ce podcast va durer des années et des années avant qu'on arrive à la fin. Hein. Je le rappelle.
Ouais, mais on a une durée de vie plus longue que les events Marvel.
Effectivement. Donc c'est sorti, vous pouvez l'écouter, c'est sur l'épisode autour le premier épisode autour de Sun et de Jean, deux personnages très sympathiques de l'univers de Lost. Donc voilà, vous pouvez aller écouter ça en vidéo, c'est en dispo partout, sur toutes vos plateformes de podcast en vidéo, c'est sur YouTube surtout. Voilà, surtout et uniquement tout simplement. Jeudi, il y a notre nouvel épisode. Faye appelait ça la famille Comics Discovery, puisque après BD Discovery, nous sortons Manga Aken, qui va s'intéresser à la BD asiatique. On va pas parler que de manga, même si l'émission s'appelle Manga Aken. On va essayer de parler de webtoon, on va essayer de parler de tous les genres de ce que vous retrouvez en BD en Asie. On va aussi parler un peu d'animé. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle émission. C'est avec une toute nouvelle équipe, et c'est mené par Faye. J'espère que vous allez kiffer. Ça sort jeudi. On a fait un petit teaser. Vous pouvez aller découvrir le petit teaser Enfin, le teaser, c'est juste une image, hein, une image promo. Et d'ailleurs, il y a un indice sur le sujet de l'émission dans la promo. Donc, je compte sur vous pour aller me donner vos idées si on parle de Fifi Brindavassier ou des pieds nickelés. Dites-le moi. Non, c'est pas du tout de la BD asiatique. Mais voilà, tout ça sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Même si Instagram et Facebook cet après-midi, c'était compliqué. Je sais pas si vous avez subi le petit down, mais moi j'étais j'ai passé 15 minutes à essayer de me connecter.
Ah attends, je crois qu'à un moment donné l'après-midi, ouais, j'ai vu je me suis dit c'est parce que je capte pas, mais
non, non bah, de 16h à 18h à 19h, il y avait plus Facebook, il y avait plus Instagram.
Ah OK.
Voilà. On a fait des news un peu tech. qu'est-ce que c'est d'autre à vous annoncer? Bah rien d'autre. On va passer à le reste de l'actualité. Et c'est le retour de quelque chose qui était demandé depuis très très longtemps. Moi, comme j'avais dit à Mathieu sur notre Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Donc j'ai dit à Mathieu sur notre Discord, moi je m'en fous puisque j'ai les éditions master de chez Melody Graphics à l'époque. Donc c'est Lock and Key, une superbe super série de Joe Hill et Gabriel Rodriguez que moi j'adore. On vous a déjà parlé à maintes fois dans l'émission. Aux US, ils avaient sorti l'espèce de ce qu'on appelle la Master Edition, donc toute la série en trois volumes, en trois très très beaux volumes, qui était déjà sorti en VF chez Milady Graphics, donc le pendant comics de Bragelonne avant que ça s'appelle iComics. Ils l'avaient ressorti en plusieurs éditions, en plus petit format ou en intégrale directement, et là ils vont ressortir cette fabuleuse Master Edition avec en plus un quatrième volume. Donc peut-être que je craquerai pour le quatrième volume. Où ils rajouteront tout ce qui était sorti entre-temps dans l'univers de Lock and Key. Donc l'âge d'or et God Day et des trucs qui avaient été proposés en Free Comic Book Day. Alors, le premier sortira apparemment le 22 novembre 2024. Pour le prix de 35€, bah franchement, si elles sont aussi belles, je sais plus combien je les avais payées moi à l'époque. Ça devait être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, c'est de très très belles éditions. C'est un super super comics. Il y a un comics fair dessus.
Oui, on a fait un comics fair sur Lock and Key. Mais t'es sûr de la date
Bah moi j'ai vu 22. Ou c'est peut-être moi qui dis des conneries.
22 mai 2024 sur la news.
Oui, j'ai dit quoi ?
Novembre.
Ah, excusez-moi, c'est 22 mai, oui. je ne sais même plus lire. Donc, 22 mai 2024 pour le prix de 35€. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un comics fair, effectivement, dessus. T'as apprécié cette série ? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, tu n'aimais pas Lock and Key, mais peut-être que je me suis complètement gouré.
Qui, moi ? Non, Lock and Key, ça va, c'est après que j'ai commencé à détester Joe Hill.
Ah,
c'est contre Joel que j'en ai pas contre Lock and Key spécifiquement.
Et tu as quelle édition de Lock and Key
J'ai les TPB VO, donc...
D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu cette Master Edition entre les mains? Ou est-ce que tu l'as déjà vu en librairie? Est-ce que ça t'a donné envie?
Non. Oui, je l'ai eu en main, mais non. Je les ai déjà, je vois pas l'intérêt de les racheter plus cher que ce que j'ai, quoi.
D'accord. J'ai la même édition que toi, nous dit XP. Ah ouais, les vrais ont la Master Edition. Lock and Key, est-ce que t'as lu ça, Sophie? Moi, je pense que c'est un truc que tu pourrais kiffer.
Eh ben, c'est pas la première fois que tu me le recommandes, mais non, en fait, je suis pas sûre d'avoir. J'ai peut-être un tome, mais je suis pas sûre. Faut que je vérifie dans ma bibliothèque, j'ai trop de trucs. Ma bibliothèque, c'est ma pale et elle est beaucoup trop grande. en fait, oui, si, le concept m'intéresse. Mais,
c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait le pitch pour les gens qui ne sauraient pas. Lock and Key, c'est l'histoire d'une famille qui vient de perdre leur père, donc qui déménage dans la ville de Lovecraft. Et dans leur maison, les enfants de la famille découvrent très très vite que si on met la bonne clé sur la bonne porte, bon, on obtient des pouvoirs un peu
Oh, il n'y a même pas besoin de porte. Hein.
C'est-à-dire.
Il y a des moments où il y a des clés qui nous montrent des portes.
Il n'y a pas des portes. Bon, en tout cas, il y a des clés. Il y a l'histoire de clés et de portes. Surtout de clés. Ils vont avoir des pouvoirs. Mais il y a une espèce de méchant, enfin, d'esprit un peu démoniaque qui convoite les clés et les portes, enfin donc les pouvoirs d'une clé en particulier, vous allez voir toutes ces une superbe série avec plein de, oui effectivement il y a XP qui nous dit, avec notamment un personnage d'ado autiste, je sais pas s'il est autiste, mais en tout cas il y a un ado qui est déficient mental, qui est, moi je trouve plutôt bien écrit, ouais. C'est vraiment une série que je recommande très très fort. Je sais pas si Tito Peinture il l'a lu, Lock and Key. Je sais pas si c'est trop son délire, ce genre de truc.
Pas du tout. Je sais que c'est quelque chose de vraiment qui est un peu culte, quoi, mais ça fait pas partie de ce que j'ai lu de chez Joey.
Et ça te donne pas envie?
Là, pas plus que ça. Enfin, non.
D'accord.
Non, pas plus que ça, non.
Le simple évocation de Lovecraft ne suffit pas.
Non, pourtant, il adore Providence.
Ouais, j'adore Providence. J'adorais Providence. Mais peut-être que de mettre... Enfin, je suis pas toujours très fan quand c'est les... Enfin, les histoires avec des enfants protagonistes, même si, en fait, ce que je dis, ça veut rien dire, parce que parfois, c'est extrêmement bien écrit. Mais non, le titre me...
Oui, Monstre, ce n'est pas du tout avec quelqu'un de... Enfin, bref.
Maman, le protagoniste, c'est pas un enfant.
Il est pas enfant, on vient pas. Ouais, bref, non, faudrait que je le relise, je l'ai plus trop en tête. C'est vrai, je dis de la merde, mais ça ne change pas que d'habitude. On va passer à une autre news. Et c'est une news que j'ai sélectionnée exclusivement pour Spades, parce que je sais qu'il adore les titres de chez Vestron, et qu'il adore Tortue Ninja, et qu'il adore Archie Comics.
Archie, ouais.
Il y a peut-être une, ouais, voilà, j'allais dire, il y a peut-être une de ces affirmations qui est vraie. Les autres, peut-être pas. Donc, c'est Vestron, donc, qui se spécialise, depuis
après,
un peu.
Vestron, j'ai rien contre eux, hein, je connais pas du tout comme éditeur, donc, j'ai jamais rien acheté chez eux.
Donc, Vestron, c'est, les anciens, non, c'est pas Delirium, mais c'était qui, Vestron, avant, il s'appelait, non, c'était Weta Sunnyside. Ouais, Weta Sunnyside, effectivement. C'est du Just Dread, qu'on fait plein de trucs dans ce style-là. Et donc, ils se spécialisent avec Vestron dans les licences, puisque ceux qui ont fait Masque, et les licences très années 80. Tout à l'heure, on parlait de renouveler lectorat comics. C'est pas effectivement chez Vestron que vous allez renouveler votre lectorat comics, puisque c'est très axé nostalgie, tout ça, puisqu'on a du G.I. Joe, on a du Masque. Il y avait quoi d'autre chez Vestron? Ils font du The Crow aussi. J'ai pas eu la chance de lire des trucs de The Crow de chez eux, parce que c'est que des trucs qui sont sortis à côté. Ils ont pas sorti le bouquin de James Hobart. Peut-être qu'ils l'auront sorti à un moment.
Ils ont peut-être sorti The French Crow chez eux, non?
Bah, ils l'ont pas appelé comme ça, en tout cas. Et je sais plus, je crois qu'il y a des trucs italiens qui sont sortis, je sais pas, bon, bref. Et donc, après toutes ces licences, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure qui va sortir chez Vestron. Et donc, c'est le pendant vraiment autour du dessin animé, puisque c'était dans les années 80, on avait proposé un duo d'artistes, enfin un artiste, de gérer, de faire un comics tiré complètement du dessin animé des années 80 pour les gens qui voulaient un peu surfer sur ça. Et mais après, apparemment, au bout de plusieurs numéros, c'était vraiment parti sur leur. Ils ont proposé à Dave Garcia, voilà. J'ai retrouvé le nom. Et après, il a proposé, en gardant l'esprit du dessin animé et le design du dessin animé, il était parti sur son truc à lui. Et je crois que le run est assez long. Il y a pas mal de numéros. Et donc Vestron va proposer ça. Et ça devrait sortir. Le premier est attendu le 19 avril 2024 pour le prix de 16,95€ pour 128 pages. Et après, on aura les autres tomes au fur et à mesure. Donc, bah, si vous êtes fan du dessin animé des Tortues Ninja des années 80, et bah je pense déjà que vous l'avez pas revu parce que ça a très très mal vieilli. Ça sert avec vous. Avec vous.
Bah c'est vous regardez une vidéo du JDG qui disait effectivement que c'était retapé un peu tous les épisodes et que genre la première saison était c'était tous les bons trucs et puis après enfin c'était du remplissage.
Ouais, bah ils ça marchait qu'ils pouvaient faire des jouets et ils ont effectivement ils ont pas mis les scénarios.
Mais là il y a une anecdote, alors je sais pas si elle est aussi chiante et connue que celle du pied de Viggo Mortensen, mais du fait que quand même les créateurs du dessin animé se régalaient pour casser ce côté où on leur imposait de mettre des jouets, c'est-à-dire que dès que les tortues en fait avaient une nouvelle invention qui était inspirée par les jouets, le truc ne marchait jamais.
Ah,
ça c'est rigolo.
Ok.
Alors, est-ce que tout le monde connaissait déjà cette anecdote?
Non, j'ai pas entendu parler.
Voilà, bon. Bah,
non, moi TMNT passé le dessin animé que j'ai vu dans les années 80 puis les films des années 90, je me tiens très très loin de cette distance, si possible avec un bâton. Donc.
Oui, tu l'avais déjà dit plusieurs fois. Hein.
C'était pas mal le truc là de cette.
Ouais, le truc l'Astronine. Effectivement, c'était pas mal l'Astronine. Ah,
certainement.
L'Astronine, c'était très bien, mais même le film là qui est sorti, était pas mal là. Le film.
Ah oui, on va en parler après.
Ah non, j'ai trouvé le truc de cette.
On en parle après. On en parle après.
Oui, cette Rogaine, voilà. Cette Rogaine.
On en. Non, alors, pas de spoil. Sophie, t'as un lien avec les Tortues Ninja ou pas du tout? C'est vraiment pas. Je suis sûr que pas du tout. C'est vraiment pas.
Pas. Alors déjà, j'aime bien le mouvement punk. Et il me semble que le comic c'est lié au mouvement punk. Et sinon, de base, en fait, si moi j'aimais bien. Alors j'ai une vision et un souvenir très très lointain du film, des films d'époque, de quand j'étais gamine, donc des années 90. Mais je crois que je les ai pas revus depuis et que sans doute ça va piquer si j'essaye. Donc j'ai jamais osé revenir dessus. J'adorais le dessin animé évidemment. Voilà, j'étais fan du dessin animé. Et je sais qu'avec mon frère on jouait au Tortue Ninja. On a cassé deux ou trois trucs chez nous en essayant de jouer au Tortue Ninja. On prenait en plus des vêtements comme des épées, ce qui marche pas du tout, n'est-ce pas? N'essayez pas de faire ça chez vous. Voilà. Donc si, après, j'avais essayé de m'y remettre. Hein. J'avais lu le Batman et Tortue Ninja.
C'est marrant, mais c'est pas ouf.
C'est exactement ça, c'était marrant, mais c'était plus anecdotique. Et j'ai peur que ce soit un peu ça, que ce soit un peu vibe nostalgique, mais plus anecdotique qu'autre chose. Voilà.
Et quelle est ta tortue préférée et pourquoi c'est Raphaël?
Alors là, je ne pourrais pas te le dire. Moi, j'aime bien un journaliste, en fait.
Ah, d'accord. Ok.
Mais moi le seul truc que j'ai cassé avec
Loïs.
moi le seul truc que j'ai cassé avec les Tortues Ninja, c'est les manettes de NES.
Ah oui, ah. Effectivement, le fameux.
Mais d'ailleurs, je l'ai fini, c'est un saloperie de Dieu, mais
le jeu, challenge, hein. Le jeu qui est sorti il y a pas trop longtemps, j'ai plus du tout le nom en tête. Dans l'esprit un peu. Ouais, et ben il était très très cool. Il est toujours, hein, si vous avez l'occasion d'y jouer. Voilà. Ah, j'ai vu tout à l'heure, bon, c'est complètement hors sujet, mais j'ai oublié d'en parler. Et bon, c'est un peu le lien avec le comics, puisque c'est designé par, c'est Singelin ou c'est Babelais? Je vais encore confondre.
Ah, bah, faut pas nous y demander, nous on est pas au courant de ce que tu veux dire.
Non, mais parce que j'ai vu que tu jouais à Citizen Sleeper, c'était hier, ouais. Ou c'était cet après-midi, je sais plus.
Hier.
Donc, allez suivre la chaîne de Speed si vous voulez un peu de gaming. Il y a un peu de game. Qu'est-ce que t'en as pensé du en deux mots?
Très bavard.
C'est un oui, jeu bah ça. Qui est un narratif.
Forcément.
Oui. Ouais.
Et c'est difficile de rentrer dedans en fait.
Ah d'accord. Moi j'ai bien.
C'est l'univers est intéressant, mais t'en vois tellement peu en trop longtemps que. Disons qu'ils auraient dû rendre le jeu un peu plus punchy au niveau des missions au début pour te faire rentrer dans l'univers, parce que là c'est juste bah tu joues 10 minutes, tu vas faire dormir ton personnage, tu reviens 10 minutes, tu fais dormir ton personnage, donc ouais c'est un peu lassant quand même.
D'accord, ok. On va passer à une autre news. C'est une news qui va faire plaisir à Titou Peinture, puisque c'est la sortie en deluxe, et je vais ouvrir la news pour avoir les dates. Donc, de la série de Donny Cates, très marquante apparemment. On avait fait le début, j'avais pas trouvé ça si nul. Je suis pas très grand fan de Donny Cates, mais pour le coup, ça son Venom.
Pour du Venom, c'est loin d'être nul. Hein.
Ouais, et je suis encore moins fan de Venom que je pourrais l'être de Donny Cates. Mais pour du Venom, effectivement, je crois que c'est la meilleure série Venom que j'ai lue, je pense.
Je pense que ça fait consensus aussi, parce que tu te cherches des très bonnes séries Venom, j'en ai pas forcément en tête, peut-être Lethal Protector.
Ah non, même Lethal Protector, c'est... Bref.
Mais... Ouais, non, mais oui.
On va encore se faire des ennemis si on dit ça, parce que c'est vraiment, il y a des gens qui sont très fans, mais... C'est pas terrible, l'état de protecteur. Mais par contre, quelque chose qui est terrible, par contre, et qui est terrible dans le bon sens, c'est la série de Ali Wing et de... c'est qui déjà au dessin, que je dise pas de bêtises, Joe Bennett.
C'est magnifique.
Immortal Hulk. Donc ces deux séries vont sortir en deluxe. Deluxe, c'est les gros formats de chez Panini. Pour 32 euros, vous avez 340 pages apparemment. Ce sera en, je crois que j'ai lu 4 ou 3 Immortal, 3 ou 4
issues,
pas issues mais deluxe quoi, du coup.
D'accord.
Bah moi je pense que je les avais pas achetés à l'époque, même si j'en avais lu quelques-uns comme ça par-ci par-là, mais je ne les avais pas achetés, et je pense qu'on en a tellement pas dit du bien de cette série Immortal Hulk. Et notamment Tissot Peinture qui arrêtait pas de dire que c'était la série qu'il fallait lire chez Marvel de ces 10 dernières
années. C'est la série que Sophie doit absolument lire, tellement elle est fan de body horror, là elle va s'éclater là.
Bah, pour le coup, moi j'aime bien Hulk de base. Moi c'est, j'adore Frankenstein et je trouve que Hulk par certains aspects ressemble à la créature de Frankenstein, en tout cas me rappelle, et du coup ouais, je suis bien tentée.
En plus, ça renoue un peu avec le côté, enfin, ça va un peu dans le côté horrifique qu'on avait peut-être un peu perdu au fur et à mesure.
En fait, ouais, on est complètement dans de l'horrifique, mais on est aussi dans un travail qu'on aime bien aussi, hein, qui a été fait par Geoff Johns notamment, en fait, sur le fait de tout accepter dans la continuité d'Hulk. Pour en faire un espèce de tout cohérent. Moi, c'est vrai que j'adore ça. Quand un auteur arrive, en fait, à prendre des histoires qui sont très différentes dans l'éditorial, mais en fait, à réussir à créer une cohérence. Bon, ben, là, on le fait, bien sûr. On plonge dans la psyché de tous les Hulk, qui sont des aspects de Banner qui sont différents. Il embrasse tout cet héritage-là sans aucun problème, Ali Wing. Et il va continuer à apporter sa pierre à l'édifice, qui continue d'ailleurs sur ça. Sur déjà le fait, en fait, c'est lui qui a vraiment mis en place le fait que Hulk, de toute façon, est immortel. Hulk, Banner aussi, ne peuvent pas mourir. Et donc, ça donne lieu à des scènes qui sont assez incroyables. Et le final, bon, est une véritable apothéose. Je veux pas non plus trop en parler, mais on va vraiment aller aux profondeurs de la mythologie Marvel, avec ses êtres les plus puissants du bien et ses êtres les plus puissants du mal. Mephisto est vraiment un bas level à côté de tout ce qui va se passer. Et ça pose Hulk, ça sort un peu du Hulk qui fuit à travers les États-Unis, comme on avait un peu dans la série, qu'on a souvent retrouvé aussi en bande dessinée. C'est une véritable, je trouve, dans les dernières années, c'est la série Marvel 616 qui est la plus qualitative, qui est la mieux écrite. C'est un dessin de maître. Je me demandais, mais comment ça peut sortir ça tous les mois? Ça, c'est aussi quelque chose qui est incroyable, hein. On a tendance à l'oublier, nous, enfin, les lecteurs de comics, mais on se dit qu'il y a certains dessinateurs qui arrivent à sortir, franchement, mais des issues magnifiques tous les mois. C'est sûr, quand on dessine un peu, on se dit qu'il y a toujours des gens qui sont bien, bien, bien plus doués que nous. Et puis, encore une fois, comme on dit, la bande dessinée, là où ça se transcende, c'est quand le dessin et le scénario sont tous les deux au top. Et pour moi, là, c'est clairement ça, quoi. Vraiment, foncez-y, les yeux fermés sur ce Immortal Hulk. Au pire, vous trouverez... je pense qu'au pire, vous direz « c'est pas ma cam ». Pour dire « au pire, c'est pas ma cam ». Mais ça va être très difficile de dire « non, c'est pas bon ».
Et la vraie question qu'on va se poser, attention, c'est une question qui a beaucoup de sens. Pour les gens qui écoutent Comics Discovery depuis un petit moment, ils savent que l'ami Tissot Peinture n'achète pas beaucoup de comics et n'investis pas beaucoup.
Oui, j'achèterai.
Dans le... Est-ce que tu vas acheter ce Deluxe de Immortal Hulk?
Oui, je vais l'acheter.
D'accord. J'espère que tu l'achèteras dans une librairie indépendante et pas sur un site internet qu'on ne citera pas. Voilà, juste...
Est-ce que Wish le vend?
Ah, je sais pas. Je sais pas.
Est-ce que c'est vendu sur Wish? Je pense pas. Oui, non, mais je l'achèterai dans une librairie.
Spades, est-ce que tu as lu cette série? Est-ce que tu es aussi dithyrambique que les Tito Peinture sur cette série?
Ni l'un ni l'autre, j'ai lu, donc pas grand-chose à dire dessus.
D'accord, ok. Et eh bien, on va passer. Attendez, il y avait une autre news dans la même news, je crois.
Je rajoute, pendant que tu cherches ta nouvelle news,
vas-y.
Une couverture d'Alex Ross aussi tous les mois. Hein.
C'est vrai. C'est...
Ça, c'est,
ça, c'est un argument.
Ça, c'est aussi un argument. Et Alex Ross, bon, ben, il n'est jamais aussi bon, je trouve, qu'en tant que cover artiste.
Ouais, je suis juste surpris de t'entendre dire que c'est bien écrit parce que Alley Wing, ça fait vraiment partie des auteurs que je comprends pas comment il peut avoir une carrière, quoi.
Écoute, peut-être donne-lui sa chance si tu en as l'occasion.
J'ai perdu assez de temps avec lui. Non, vraiment, Alley Wing, c'est lui et Cullen Bunn, c'est vraiment deux auteurs. Tout ce que j'ai lu, c'était mauvais, donc j'y ai plus, quoi.
Spades, dans tout ce qu'on aime, j'ai Spades. Est-ce que...
Mais je maintiens que pour ceux qui, on va dire, iront jusqu'à lire, après je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'aller vers un auteur, mais j'ai vraiment l'impression qu'au pire, on peut aller sur... C'est pas trop ma cam. Mais vraiment, les arcs, en fait, s'emboîtent les uns sur les autres. Comme je te dis, il y a cette espèce de compilation de tout ce qui a été fait sur Hulk. Moi, je trouve vraiment que oui, c'est... Oui, c'est bien écrit, sans aucun problème.
Non, ça me surprend, c'est vraiment parce que vraiment, c'est pas du tout l'image que j'ai de cet auteur-là, quoi. Moi, c'est vraiment rien que son nom est un repoussoir pour moi, donc.
Il y a des gens des fois sur un truc qui se transcende, ça peut arriver.
Oui, bah oui, c'est pour ça que c'est surprenant, quoi.
Les fameux one hit, one wonder.
Ouais, c'est ça, quoi. C'est...
Tu vois, par exemple, Paul Anderson, il a fait Event Horizon, c'est très bien. Après, il a fait Resident Evil, les trois mousquetaires 3D.
Bah, il avait fait Mortal Kombat, qui était sympa, non?
Et Mortal Kombat, oui, sympa. Sympa, oui, c'est sympa.
Ouais. Franchement, quand quelqu'un tu vois Street Fighter 2...
Quelqu'un d'autre qui est sympa, lui. En tout cas, qu'il a l'air. C'est l'ami Jim Lee. Il a l'air sympa, non? Comme mec.
Oui. Il a l'air sympa, on a envie de l'inviter.
On a envie de l'inviter, effectivement. Eh bien, sachez qu'il est invité. Le 29 mars 2024 sur Paris pour une dédicace, apparemment une dédicace limitée, hein. Ça va pas être pour tout le monde puisque rappelons quand même
Jim... Y a des places.
De quoi?
Je dis oui, apparemment il y a des places, faut s'inscrire et tout.
Ouais, effectivement, ouais. Je crois que c'est même c'est pas de tirage au sort, il y a pas un bail comme ça.
Je pourrais demander à Steve parce qu'il compte y aller.
Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir le retrouver à trois endroits différents. Le cher ami Jilly, le 28 mars, il sera Album Comics de 17h à 20h pour une séance de dédicace. C'est un jeudi. Et le samedi 30 mars, vous pouvez le retrouver au Comic-Con France pour une conférence, apparemment, et à l'Escape Game de Batman de 17h à 18h le samedi encore 30 mars. Voilà, donc Jim Lee, je pense qu'on ne le présente plus, maintenant c'est un des chefs éditoriaux de chez DC. C'est lui qui a fait le grand nom des X-Men des années 90. Si vous aimez la série X-Men, la série animée des années 90, c'est lui qu'on a fait, à qui on doit le design. Ça a été un des fondateurs de Image Comics. Et voilà, c'est un monsieur qui dessine très 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 bien.
Batman Hush, c'était lui, hein.
Oui, effectivement, Batman Hush.
Très beau titre.
Ouais. Donc, est-ce qu'on y
va? Il a fait aussi Batman and, All Star Batman and the Boy Wonder avec Frank Miller. Ça, on essaie de l'oublier.
Là, c'est ta place.
Ah, il a mis 15 ans là quand même.
C'est ta directement dans les testicules.
Mais nous donc encore le dernier numéro, un hein, salaud. Hein. Mais en même lui, il a jamais voulu le dessiner. Donc...
Moi, je l'ai mis à Miller. Hein. Mais on peut plus en vouloir à Miller sur ce coup-là qu'à Jimmy.
Mais franchement, ouais.
Donc, nous, on n'est pas très convention et on n'est pas sur Paris. Donc, on n'y verra pas. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie d'aller voir Monsieur Lee, c'est l'occasion ou jamais. Rien que, enfin, j'irai pas une séance de dédicace parce que je suis pas très séance de dédicace, mais une conférence, ça peut être intéressant. Je suis sûr qu'il a plein de trucs à raconter. Il va vous expliquer qu'en faisant un triangle, un rond et deux petits traits, il est capable de faire un Batman, que toi tu refais pareil à côté, mais c'est pas du tout la même chose. C'est quelqu'un de très.
Ces techniques-là, moi, j'ai jamais réussi à les appliquer. Je sais pas pourquoi, quand je le fais, ça ressemble à rien. Et si je fais 100, des fois, ça ressemble un peu à quelque chose.
Mais il est très fait. J'ai vu plusieurs trucs où il fait ça. Tu le vois en train de faire. Il te comme si c'était rien. Et puis, il fait des trucs de folie. Enfin, bon, voilà.
Mais tu sais que c'est à ça qu'on reconnaît du bon travail, c'est que ça a l'air facile.
Effectivement. Effectivement. Bon, ça reste quelqu'un quand même qui a marqué l'histoire du comics.
C'est un grand nom du comics moderne, oui.
Donc voilà. Je pense que c'est un peu, on a fait un peu le tour de cette news. Et on va passer à une autre news. Et on en parlait tout à l'heure. C'est Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem qu'apparemment Spades a détesté, mais bon, c'est
j'ai pas vu, donc Seth Rogen et les Tortues Ninja, moi il y a tout pour que je le regarde pas, ce film là.
Et ben moi je l'ai vu au cinéma.
C'est juste le design, je le trouve horrible, donc c'est le seul truc que j'ai vu du film et vraiment je le trouve horrible.
Et ben moi je trouve ça plutôt sympa, au niveau design c'était plutôt bien. Un des trucs que j'avais reproché, c'est sa VF bourrée de star talent, notamment Richard Darmon en Splinter.
En Splinter.
Je comprends pas, je vais le répéter hein, parce que je vais encore me faire houspiller, mais moi Richard Darmon, je ne comprends pas ce mec a en dehors de
Gérard.
Ouais. En plus j'écorche son nom. Tellement je ne le respecte pas. En dehors du film des nuls, je parle, voilà quoi. Tout le reste où je l'ai vu, c'était éclaté. Ouais. Bon, bref. À part peut-être le flambeau.
On a écouté les films de Seth Rogen, donc.
Et j'aime les fils de Seth Rogen. J'aime beaucoup les films de Seth Rogen. Enfin, pas tous les films de Seth Rogen, mais j'aime.
Et t'as pas aimé Le Grand Pardon avec Jardin.
Je n'ai pas vu Le Grand Pardon.
Le sous-parrain dans.
Mais déjà que j'ai.
Chez les Sepharas.
Déjà que j'ai pas aimé
ça. Avec Rogiana.
Ouais.
Oui, ouais, ouais.
Déjà que j'ai pas aimé le parrain, mais en français.
C'est un peu le parrain Wish, hein.
le parrain français avec l'accent pied noir. Faut pas oublier. Oui.
Par contre, j'aime beaucoup Roger Hanin, donc ouais, je sais pas. Je rappelle que j'ai vu la dernière saison de True Detective et que j'ai pensé à Roger Hanin pendant toute la fin parce qu'il y a une des personnages qui s'appelle Navarro.
Je pense que tu aimes bien Roger Hanin parce que c'était le beau-frère de Mitterrand. Après, ça s'arrête là.
Moi, je l'aimais bien parce que quand j'étais gamine, j'aimais bien les histoires de détectives et que je trouvais qu'il y avait une ambiance et tout.
C'était marrant, Navarro. Et encore, comme les Tortues Ninja, je ne reverrai pas.
Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était soit ça, soit une femme gendarme ou gendarme femme ou je sais pas quoi.
Ou Julie Lescaut. Je pense que
tu confonds Marie Pervenche. Avec Daniel Evnou.
Non, il y avait la truc avec.
Trop jeune, quand même.
Il y avait une femme gendarme, je sais pas quoi. Et la dernière dans cette série.
Ça, c'est Corinne Touzé.
Corinne Touzé.
Et dans cette série, d'ailleurs, sachez qu'il y a un des comédiens du film nanar français, Le Lac des Variants. Voilà. Avec des zombies nazis. Voilà.
Et j'ai vu ce film. Je regarde.
Bah, Promis-le-un.
Et donc, le crossover Navarro Tortue Ninja. Alors, où est-ce que ça en est?
Donc, il va y avoir un 2 pour Tortue Mutant Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem. Et apparemment, il est annoncé pour, et je vais vous donner la date parce que je ne l'ai pas en tête, pour le 9 octobre 2026. Merci, Spades. Donc, bah voilà, pourquoi pas. En vrai, le film était. Il y a XP qui nous dit qu'il adorait Marie Pervenche. Ouais. C'est pas Daniel Evnou qui sait, oui, si tu l'as dit tout à l'heure.
Ceci.
Je viens de le dire.
Ouais, ouais. Et moi, je me suis.
On l'embrasse.
Daniel Evnou, je me souviens dans les grosses têtes, surtout.
Je suis sûr qu'XP, il a adoré Post Café aussi, donc.
Pause café. Ah, c'est pas le. Ah non, c'est à Espace Détente, le film qui fait suite à Camara Café.
Bah, moi, j'aimais bien Pause café.
Pause café, c'est GTO, mais à la française.
Ah, d'accord. Ok. Tu me vends du rêve. mais j'espère qu'il y a. C'est qui joue la racaille qui devrait pas. C'est pas grave.
Marc Lavoine.
Tortue Ninja.
Et tu arrêtes de me rendre. Il y a Marc Lavoine.
Je ne pas, il y a Marc Lavoine.
Super, dont je déteste Marc Lavoine. Donc voilà, bah pourquoi pas.
Bah, je joue de la caille, ça tombe bien.
Ah, d'accord, bah, c'est parfait alors. Vincent, est-ce que tu l'as vu, ce Teenage Mutant Ninja Turtle?
Bah oui, je l'ai vu, et j'ai trouvé ça très cool, moi, Seth Rogen. Pourtant, je sais que je ne suis pas sensible au délire de Stoner. Enfin, Stoner, pardon. Bah, quand même, malgré tout, je l'aime bien, Seth Rogen. Il est rigolo et je trouve que son univers justement marche très bien avec celui des tortues et que s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que bah en fait ça se voit qu'il aime beaucoup les personnages.
Ouais.
Alors oui, il se les réapproprie. Oui, il y a quand même des différences. Regardez par exemple après le Nil, hein, là, ça parle d'elle-même. Elle a un bonnet par exemple dans cette adaptation, ce qui est pas du tout le cas dans le dessin animé. Mais par contre, voilà, moi je trouve que ça marchait bien. L'animation, j'ai trouvé sympa. Il y avait un côté un peu crasseux aussi, ouais, dans l'animation, qui va bien aussi avec le côté dégueu
des tortues.
Des tortues, ouais. Et une énergie qui correspondait vraiment cette fois-ci au côté teenage.
C'est vrai, je suis totalement d'accord. Donc moi, j'irais bien voir ce. Je crois que c'est un des trucs que j'ai vu cet été, qui était le moins éclaté. Donc.
T'essayes tous nous entraîner à aller voir cet été, je te rappelle.
Ah ouais, peut-être, ouais. Je sais que j'ai vu Blue Beetle et ça le même jour, et que Blue Beetle, c'était vraiment pérave.
Oh, c'est un no-match aussi.
Non mais Jeff, des fois tu cherches un peu quand même. Hein.
Ouais, je vois un truc adapté de comics, je me dis j'y vais dans tous les cas. Je suis bien allé voir Madame Web.
C'est beau ce
soir. Voilà, tu as dû le dire dans les autres émissions, t'es allé voir Madame Web.
Oui, je suis allé voir, c'était du lâcher. On a fait un...
Donc, t'as pas une voix dissonante à apporter sur Madame Web.
Et si Faye qui disait que c'était un film de dimanche après-midi, c'est surtout Angèle qui disait ça. C'était un film de dimanche après-midi. D'ailleurs, en parlant de film de dimanche après-midi,
film de dimanche après-midi, c'est pas forcément un indicatif de qualité. Quand
oui, totalement. J'ai vu le film.
Pour moi, dans la base, c'est téléfilm M6, hein, un film de dimanche après-midi, quoi.
Dimanche dernier, j'ai vu le film Dora l'exploratrice. Et bizarrement, c'était plutôt drôle. Donc voilà. Si vous...
Ouais, c'était bien avec Eva Longoria là.
Ouais, il y a Eva Longoria qui me.
Ouais. Il est très sympa ça. Il est très sympa ce film.
Et Machete qui joue. Enfin, Danny Trejo qui joue Babouche. Voilà. C'est une. C'est Benicio del Toro qui fait Shipper. Voilà.
La pensais-tu dire un jour ce casting?
C'est pas de quoi vous parlez, c'est effrayant là.
Mais non, mais il est cool, hein, vraiment. Enfin, tu vas mater avec des enfants, je pense que tu passes un bon.
C'est good vibe. Good vibe.
Ouais, bah oui, non.
Ouais.
C'est tout à fait good vibe.
Un peu. Ah, oui, je me suis d'accord avec moi.
Non, mais moi c'est le casting en fait que vous êtes en train de dire. Benicio del Toro en chopper qui blesse perplexe.
Il faut bien me payer ses impôts. Hein.
Il y a des impôts qui lui sont tombés dessus, ouais.
Mais il y avait une petite vibe le film Barbie avant l'heure, je trouve. Un petit côté méta. Ils se foutent de la gueule de Dora l'exploratrice. Mais en étant gentil.
Oui, mais avec bienveillance. Ouais, il y a pas de. Voilà, c'est pas. Et regardez, je détruis mes anciens jouets pour. Non, c'est vrai.
Ouais. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de regarder Dora l'exploratrice, allez-y. C'était plutôt sympatoche. Teenage Mutant. Mais regardez en VO d'ailleurs, hein, parce que en Monsieur Poulpe, en je sais plus s'il fait Bebop ou Rocksteady. Ben, le mec ne fait aucun effort. Hein. Enfin bref.
Ah, c'est dommage. Parce que ça peut être drôle Monsieur Poulpe quand il s'y met.
Ouais. Je pense qu'il était drôle.
C'est cinématographique, c'est un peu effondré très rapidement, j'ai l'impression.
Ouais.
Monsieur Poulpe.
Moi, je trouvais qu'il était drôle dans les années 2000.
Il n'a pas commencé avec Kev Adams, sa carrière cinématographique.
Non, il avait fait. Je crois que son plus gros film, ça doit être. C'est parce que tu confonds avec Gangsterdam, mais c'est.
Budapest.
C'est le truc sur les enterrements. Voilà, c'est Budapest. Gangsterdam est à Budapest.
Il était dans le taxi de Gaston Bide aussi.
De Franck Gaston Bide. Hein.
Ouais. Voilà. C'était pas fou. La petite news marrant. Est-ce que c'est vraiment marrant? En tout cas, ça nous a fait sourire. C'est donc la distribution qui a été annoncée sur Google pour Venom 3. Et donc, Norman Reedus devrait, selon Google, jouer Ant-May. Donc, Ant-May.
Je sais qu'ils essayent de changer, moderniser Ant-May de film en film, et là, il y a peut-être des limites.
Sachant que le personnage est évoqué dans le film Madame Web, mais qu'ils n'ont même pas. Enfin, je sais pas s'ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, ils le nomment pas. On sait qu'il est là. Le film est là, il fait clin d'œil, clin d'œil. Hey, et là, je parle de Ant-May, attention. Et je ne le nomme pas parce que. On ne sait jamais. Ils font ça aussi avec Peter Parker. Donc, je ne sais pas si Sony a les droits pour Peter Parker et ils ont le droit qu'une partie du Spider-Verse. Mais bon, c'est bizarre qu'ils fassent cette vanne. C'est Sheba, je crois, qui a dit un truc que j'ai trouvé très, très drôle, qu'il verrait plus Norman Reedus jouer un biopic de Renault. Je me demande si Tito Peinture était d'accord. Tu le verrais dans un biopic de Renault.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment schéma. Je trouve qu'il y a une petite ressemblance. J'espère que Norman Reedus.
Et moi, j'irais plus voir un biopic de Renault que Venom 3, personnellement.
C'est vrai qu'il fera un bon. Physiquement, en tout cas, un bon Renault.
Est-ce que tu as plus envie de voir. C'est la question qu'on va poser à tout le monde. Plus le biopic de Renault ou Venom 3
Ni l'un ni l'autre. Mais vraiment,
si c'est Norman Reedus dans les deux,
il y a bien un truc que j'ai en horreur, c'est les biopics et
les films
et
de merde.
Et Star Wars.
Space, je sais pas si je même j'ose poser la question.
Comme la madame juste avant.
D'accord. On va j'irai tout seul ou avec Tito Peinture, on ira main dans la main aller voir le biopic de Renault.
En plus, j'ai besoin de beaucoup de temps de cerveau pour finir le tome 6 de Dune.
Et je te promets qu'à la fin de la séance, j'applaudirai, James, que tu adores.
D'accord.
Mais dans le registre...
Dans la salle
dans le registre pétage de plomb de Google, récemment, je cherchais le nom d'un acteur, celui qui joue Post-Caca dans American Pie, et je me suis rappelé qu'il avait joué dans la série Scorpion. Donc, en cherchant Scorpion, Google me sortait que Anémone et Richard Bohringer avaient joué dans la série Scorpion.
Ah.
C'est peu probable.
Il y a peut-être un épisode en France et ils ont pris Anémone et Richard Bohringer.
Hein. Non, mais là, ça me situait quand même Richard Bohringer à la place de Robert Patrick. Donc,
Ah ouais, j'avoue.
Mais déjà que Scorpion.
Ah, mais c'est lui le T-1000, c'est Richard Bohringer.
Ouais. Et les mecs. Et Sarah Connor, c'est Anémone.
S'il vous plaît, pas Sarah Connor, c'est Anémone. Faites des deepfakes, pitié.
Je vois bien le T-1000 qui vient. Est-ce que vous avez déjà vu le T-1000 en train de manger un yaourt? Et je confonds avec Richard Berry. Voilà. Bref, c'est voilà. Que je fais comme Google. Ouais. Je tiens à dire que Scorpion est éclaté comme série, vraiment. Cette série est défoncée. Voilà, c'était gratuit.
Ouais, mais j'aime bien. C'est complètement nul, mais j'aime bien.
À chacun.
Ah, mais c'est nul.
Oui, c'est vraiment nul. C'est vraiment, vraiment nul.
Mais c'est drôle, contrairement à Criminal Minds que tu regardes.
Oui. Oh, mon Dieu. Non.
Oh, si, ça peut être drôle, Criminal Minds.
Ouais, mais Scorpion, c'est drôle volontairement, c'est la différence.
Ouais, je sais pas, je sais pas.
Du coup, c'est...
Par contre, quelque chose qui n'est pas très drôle et qui l'est peut-être pas volontairement, c'est les images qu'on a vues pour le reboot de la série, enfin non, du film, excusez-moi, du film The Crow dont vous a parlé la semaine dernière.
Ça ressemble sérieusement à une pub pour parfum.
On dirait, mais pourquoi il.
Je vois bien, au pire,
moi, ça me choque.
Le lien.
Perso, moi, ça me choque pas. Hein.
C'est dans la vibe. Sophie, sur le Discord, elle disait qu'on dirait le Joker de Jared Leto, mais ouais, c'est.
Bah oui, mais le Joker de Jared Leto est inspiré par la scène alternative, et comme cette version-là de The Crow. Et The Crow, c'est la scène alternative. C'est juste ils reprennent le graphisme avec les codes de l'époque, de maintenant. Honnêtement, tu l'aurais mis avec le même maquillage que Brandon Lee à l'époque. Ouais, je
trouve ça nul. Dit Richard Bohringer.
Ouais, Richard Bohringer, il aurait été bien en The Crow aussi.
On a eu Vincent Pérez. Hein.
Putain, mon dieu, il est éclaté.
Non, mais c'est vrai, il faut que ça s'adapte à son époque. Finalement, si tu refais une espèce de The Crow là, avec ce gothique de l'époque, ça parle plus, en fait.
Le maquillage de l'époque, le seul qui a le droit de le porter, c'est le catcheur Sting, et il a pris sa retraite dimanche, donc même là, c'est fini. Donc non, vraiment, moi, honnêtement, je trouve rien de choquant là-dedans, quoi. Après, l'acteur, je crois jamais avoir vu de film avec lui, apparemment,
L'acteur, il est bon.
Je peux pas dire, mais honnêtement, visuellement, ça me dérange pas tant que ça, quoi. C'est la scène halte maintenant, quoi.
Après, moi, c'est Neil Marshall qui me fait peur, puisque c'est ce côté de toute chose. Non, Neil Marshall, c'est le réalisateur, pour rappel.
On avait déjà.
J'aime bien Neil Marshall.
La semaine dernière, je crois.
Qu'est-ce qu'il a fait, Neil Marshall?
Il a fait Hellboy, la nouvelle version. Ouais, avec David Harbour.
Dog Soldier, qui est vachement bien.
Avec les loups-garous.
Ouais.
Dog Soldier est pas mal du tout.
Il est fauché, mais il est très bien, le film. Doomsday, j'avais beaucoup rigolé avec ce film-là aussi.
Ouais, il a fait The Descent. The Descent, c'est pas si mauvais.
The Descent, c'est vachement bien. Mais bon, on peut lui laisser sa chance.
Toi qui es si fan de la peinture de The Crow.
On est dans.
Moi, je trouve que. Excuse-moi, Sophie, je t'ai coupé.
Ouais, non, je voulais dire qu'on est dans le même paramètre que Hellboy, dans le sens où c'est. Il se retrouve face à faire une suite d'une grossissance. Enfin, d'un grossissance. En tout cas, d'un truc qui est culte.
Ouais, mais ouais, c'est culte. Gueule, quoi,
comme c'est pas la même boîte en plus. Hellboy, c'était pas Liongate aussi.
Et puis c'est culte, c'est le premier qui est culte. Le reste, tout le monde est. J'ai jamais vu un tel consensus pour dire que c'était de la merde, hein, autant.
Moi j'aime bien.
Mais après... Et en fait, The Crow, tu vois, Sophie, bon bah toi tu l'aimes beaucoup. C'est que moi je me posais la question si c'était culte pour justement des jeunes générations aussi, tu vois. Si c'était un truc qui avait vraiment.
Je pense quand même du fait de la mort de l'acteur.
Dans la jeune génération, ceux qui ont 25 ans, qui n'ont pas connu Brandon Lee, qui n'ont pas connu le choc à l'époque que ça a été, ils n'en ont rien à foutre. Hein. T'as une légende urbaine, c'est tout.
Je pense que ça fait partie quand même des films. Enfin, si tu t'intéresses pas trop au cinéma et à son histoire et à son passé, etc., oui, tu vas pas connaître, mais tu vas pas regarder non plus Le Parrain et que tu vas pas non plus regarder It, tu vois. Maintenant, si tu t'intéresses un peu au cinéma et un peu aux films, on va dire, qui ont fait parler d'eux, etc., à leur époque, tu t'intéresses à The Crow et au moins tu connais le rat du film.
Mais ça n'a pas tant parlé de ça à l'époque.
Excuse-moi, déjà, c'était, je pense, un truc déjà un peu de niche, The Crow, entre les gens un peu edgy.
Et Brandon Lee, à l'époque où il est mort, il était juste le fils de Bruce Lee. Il n'était pas l'acteur de The Crow.
Moi, je l'ai connu, enfin, j'ai entendu parler de lui, pas parce qu'il était fils de Bruce Lee, mais parce qu'il était mort sur un tournage.
Oui, pareil,
mais au moment, en fait, où il était casté,
à l'époque,
il n'avait pas explosé comme acteur encore.
C'est comme James Dean, en fait. James Dean, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai jamais vu un film de lui, mais je le connais plus pour le fait qu'il est mort, ou même les Fast and Furious, c'est le comédien qui est mort. Enfin, je veux dire, ça donne une aura. Il y a des gens qui ont regardé après Fast and Furious parce qu'il y avait un acteur qui était mort dedans, quoi. Enfin, il y a un
côté.
L'humanité.
Non, Fast and Furious, c'est différent parce qu'il y a déjà un public avant la mort de Paul Walker.
Que ceux qu'on regardait ensuite, quoi.
Brandon Lee, quand il est mort, ça a fait les journaux à l'époque parce que c'était le fils de Bruce Lee et qu'il était mort durant le tournage d'un film comme son père. En fait, le fait qu'il soit mort durant The Crow, il serait mort dans un épisode de Hélène et les garçons, on en aurait parlé de la même manière.
Là où je te suis moins, j'aimerais juste un peu développer le propos, c'est que sur James Dean, par exemple, quand il est mort, enfin, c'était déjà
une star, ouais.
Tu vois. C'était
mais
déjà
pas pour
une star.
Oui, mais.
Tu parles.
Pas pour la génération d'après, qui n'est pas connue.
Pour la génération d'après, c'est quand même resté, même dans une culture qui est beaucoup plus large, c'est resté une icône. Plus effectivement que Brandon Lee, parce que t'as par exemple des grands films comme La Fureur de Vivre, etc., qui ont marqué le cinéma. The Crow, c'est vraiment la mort de l'acteur qui a renforcé aussi, je pense, même si bon, le film est peut être très appréciable, hein, mais a pas marqué. Et pour finir sur ce que tu disais, Hit, par exemple, et Le Parrain, c'est pareil, c'est des œuvres qui sont malgré tout quand même malgré tout majeures. Je pense pas que The Crow, avec
parrain,
la meilleure volonté,
soit parrain,
une œuvre majeure du cinéma.
Ce que je voulais dire par Hit, c'est que ce qui a fait le fait que les gens veulent voir le film, c'était la rencontre de Niro et Al Pacino dans une même scène et un même plan. Mmh. Et au final, c'est ce que malheureusement, heureusement, je sais pas comment, voilà, mais ce que les gens retiennent au final, enfin, dans l'histoire du cinéma.
Bah, ils retiennent film, aussi dans Hit que c'est une des meilleures fusillades du cinéma, que c'est une mise en scène de Michael Mann qui est terrible, tu vois.
Quand tu parles avec des jeunes générations, ils vont te dire Hit, ce qu'ils retiennent, c'est c'est inspiré Dark Knight et il y a la rencontre de. Enfin, moi je parle avec des ados, tu vois, qui vont au cinéma et que je croise en festival et des fois ils sortent des.
Dark
ils vont
Knight.
Pas trop dire la qualité du film, quoi. Dark Knight.
Ah, Dark Knight. Ah, d'accord.
Mais qui a repris quasiment la même.
Bon, écoute, je suis pas d'accord, ce qui veut pas dire que j'ai raison.
Il y a quand même une légende urbaine qui est super marquée autour de.
Non, voilà, c'est
gens qu'on entend parler qui regardent le film autour de la légende urbaine, quoi. C'est comme les gens qui regardent le Magicien d'Oz parce qu'ils veulent voir. La légende urbaine.
Ouais, mais c'est une minorité qui cherche le nain mort qui regarde le Magicien d'Oz.
Franchement, il y en a pas tant que ça. Le deuxième effet qui se coule, que là, ils vont faire ce film-là, du coup, qui est quand même culte auprès d'une partie du public. Mais il y en a une autre partie qui vont aussi peut-être revoir l'original parce que l'autre il arrive. Et que du coup, est-ce qu'il va déjà. Parce que ce film-là, s'il plaît pas à la base, à la fanbase. Je suis pas sûr qu'il va marcher pour autant. C'est quoi le truc qui va attirer les gens? Ça va être le nom du comédien?
C'est quoi la fanbase? Mais c'est quoi la fanbase de The Crow? Parce que à part Draven,
en fait, ira voir le film.
C'est ça que je demande aussi parce que la BD, elle est culte pour un lectorat réduit parce que c'est honnêtement, je pense pas
que tous les gothiques ils vont peut-être le regarder.
Ouais, je suis pas si sûr que ça. Déjà à l'époque, ça avait pas forcément plu à la scène gothique, hein, le film original. Donc le truc, c'est que en fait, je sais pas pour quel public il s'adresse, ce film. Moi, le fait justement qu'il raccorde avec un maquillage qui colle plus avec la scène halte actuelle, je trouve ça cohérent comme choix visuel. C'est cette scène-là qui vise, mais cette scène-là, elle est pas énorme.
Bah oui, mais non, mais oui, clairement, de toute façon. Après, moi, je pense que qu'ils actualisent, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Mais effectivement, je m'interroge sur ce que ça va. Qui ça va parler, effectivement, je suis d'accord avec toi.
Ça fait parler de lui quand même. Moi, j'ai vu plein de gens qui relayaient sur Twitter et pas forcément des gens qui étaient fans de comics. Hein.
Après, il faut toujours celui qui est Twitter, sens où sauf sa miroir qui est un peu déformant. Là, j'ai une question qui rend pour vous, j'ai pas d'avis pour le coup. Est-ce que le premier film a bien vieilli?
Moi, je trouve qu'il est, il est daté, mais je trouve qu'il a bien vieilli, ouais.
Ah, moi, vraiment, quand je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai passé un mauvais moment dedans. Je trouve que.
Après, je suis capable de regarder avec plaisir La Reine des Damnés, alors je suis pas bon joueur.
Après, j'aime pas Alex Proyas, donc on en avait parlé, mais j'ai pas aimé Dark City.
T'aimes pas Dark City?
Non, j'aime pas Dark City. peut-être que.
J'aime pas
Jennifer Connelly non plus.
Il aime cette Rogan. Voilà.
Et j'aime cette Rogan, effectivement. j'ai vu le film avant d'avoir lu le comics. Et du coup, j'en avais un souvenir assez fort. J'ai lu le comics qui m'a laissé un souvenir plus marquant. Et du coup, en revoyant le film après, vraiment, je trouve que le film est pas au niveau, quoi. Donc.
Ça il est clairement pas au niveau du comics. Mais le film à la base c'était une série B, quoi. C'était pas prévu pour être un blockbuster et compagnie. La mort de Brandon Lee a mis de la lumière sur le film, c'est vrai à l'époque. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'il est mort sur The Crow, c'est parce que c'était le fils de Bruce Lee qui était mort sur le tournage, quoi.
Après, moi, je te parle de mon point de vue de ma génération.
Non, mais je sais.
Je pouvais regarder parce que j'étais attiré par tout ce qui était l'univers gothique, etc. Mmh. Mais enfin, le fait que l'acteur soit mort, c'est forcément un truc beaucoup plus attirant. C'est comme, il y a un tas de gens qui ont regardé Dark Knight parce que Heath Ledger était mort dedans. Enfin, c'est pour les mêmes raisons que les gens s'arrêtent quand il y a l'accident sur la route, quoi.
Ah ouais, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que les gens ont regardé Dark Knight parce que Heath Ledger était mort. Hein.
Si, bah, il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a une aura autour de l'acteur
Il y a une aura, mais le film en lui-même est déjà suffisant.
Avant qu'il fasse Dark Knight et avant qu'il meure Heath Ledger, tout le monde pensait que c'était un acteur qui faisait que des trucs de merde et il avait aucun intérêt pour ce comédien. Il pensait qu'il allait faire un Joker raté.
C'était des gens qui n'avaient jamais vu Chevalier, qui étaient très bien. Mais il était très bien dedans.
Personnellement...
on était très long sur cette news et on arrive sur la fin de l'émission. On n'a plus qu'une rubrique, mais je ne sais pas si Sophie, parce qu'elle disait qu'elle voulait y aller. Il reste plus qu'une. Enfin, c'est comme tu veux.
Je pense que vraiment je laisse mon frère à côté essayer de dormir et.
D'accord. On te fait des bisous. On dit encore une fois, allez écouter le podcast avant d'aller dormir. Merci d'avoir fait l'émission avec nous. Sophie, à la prochaine. Et sur ce, on va vous finir avec la toute dernière rubrique. C'est une sélection des sorties comics de la semaine. Tu veux que je te... Ah oui, c'est juste...
Ciao.
Paf. Donc, j'ai fait une sélection assez rapide.
Éclectique.
Éclectique, je ne sais pas. Oui, peut-être.
Oui, j'ai l'impression.
Donc il y a Dark Ride qui sort. Et bah, si vous voulez entendre parler de Dark Ride, eh bien sachez que on en parle la semaine prochaine dans Comics Discovery. Voilà, au moins ce sera dit. Si vous êtes fan de Frank Miller comme l'ami Tito Peinture, eh bien, il y a la suite de Sin City qui sort chez Huggin & Munin, comme d'habitude en version collector et en version normale. Et il y a un titre qui sort chez nos amis de chez Bliss Comics qui s'appelle Pirate Queen, et je m'en vais vous donner le pitch, et je sais d'ores et déjà...
Avec une faute d'orthographe.
Ouais, Pirate avec un Y.
Pirate.
C'est beaucoup plus classe d'être une pirate embarquée avec
combat avec un car.
Ouais, voilà. Embarquée avec
on y revient
Monday Ryan, une pirate à la mauvaise réputation et à la tête mise à prix. Être pirate, c'est vivre une vie courte et joyeuse et vivre la liberté. Pour la plupart, c'est au bout d'une corde qu'elle s'achève. Après une série d'attaques victorieuses, Monday et son mari et son équipage sont poursuivis sans relâche par la marine britannique. Finalement capturée, ce n'est que grâce à l'enfant qu'elle porte qu'elle échappe à la potence. Le droit interdit de pendre une femme enceinte. Son mari et son équipage n'ont pas eu cette chance. Laissée seule sur un radeau à dériver dans l'océan, elle jure de donner naissance à son enfant dans un monde où la mort de son père aura été vengée. Ça sort chez Bliss Comics pour 22€. Et c'est de... Peter Milligan. On a fait plein de trucs de Peter Milligan, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a fait? Le truc chez Black River. J'ai oublié le nom. C'était chez Delcourt, je sais plus. Non, je me trompe peut-être. C'est pas grave. Adam Paulina et Tamara Bonnevillain. J'espère que je dis bien son nom. Donc voilà. Ça a l'air sympa.
Non.
Non. Voilà. Parce que je sais que tu adores les pirates.
En fait, je me suis toujours demandé, est-ce que dans 300 ans, on fera des œuvres de fiction sur genre les pirates somaliens? En les rendant un peu glamour et cool.
Peut-être.
C'est vraiment une vraie question que je me suis posée.
Je n'ai pas la réponse à ta question.
Rendez-vous dans 300
ans. Moi, c'est surtout Dark Ride qui me fait peur. Hein, quand même.
Mais bah, tu nous en parleras la semaine prochaine.
J'ai pas envie.
Je sais que tu adores Joshua Williamson.
Alors, tu vois, je crois que je préférais relire du Halloween. Parce que, au moins, Halloween, c'est une saveur. Là, ça n'en a pas du tout.
Eh ben, allez, Wing Immortal Hulk, voilà.
Non, non. Non, on le fera peut-être à la sortie du Deluxe et on invitera Tito Peinture pour qu'il vienne nous en parler.
Ça sera avec grand plaisir.
Paf, on va revenir sur cette scène-ci. Sur ce, on va vous dire au revoir. Merci de nous avoir regardés. On fait plein de bisous. Effectivement, la semaine prochaine, on vous parle de Dark Ride. Je voulais répéter, excusez-moi, en début d'émission. Et je le répète encore, parce que plus je le martelerai, plus ça rentrera dans votre petite tête et vous irez écouter et vous irez partager, parce que le partage, il y a que ça de vrai. Jeudi normalement, si tout se passe bien, je sors le premier épisode de Manga Haken, notre émission autour de la BD asiatique. J'espère que vous irez écouter ça et que vous apprécierez l'émission. On a déjà sorti un épisode de We Have to Go Back sur la saison 1 et l'épisode 6 autour de Sun. J'espère que vous allez apprécier ça. Vous retrouvez tous les liens dans la description pour les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Sur ce, on vous laisse, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye.